Trigger warning, cet épisode parle de violence contre les femmes et de violence sexuelle.
Vous écoutez Quoi de meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpineau.
C'est parti!
Dimanche 10 novembre, à Oberhofen-sur-Moder, dans le Bas-Rhin, Sylvia, 40 ans, a été tuée à coups de couteau par son compagnon, Jackie Walter, 58 ans. Elle a essayé de s'enfuir, mais a été rattrapée dans la rue par son assassin. Gravement blessée au cou, les secours n'ont pas pu la réanimer. Son époux a ensuite menacé de se suicider. L'homme a été interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue. Selon le journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace, l'article a ensuite été modifié, je cite, « Il pourrait s'agir d'un drame de la séparation. Le mari refusant le divorce a donc tué sa femme. » C'est la 131e victime de féminicide par conjoint ou ex-conjoint en 2019, comptabilisée par le collectif Nous Toutes. Cette semaine, on va donc parler de féminicide avec Anne-Laure Pinault. Salut, mais d'abord, comment ça va ?
Eh bien, malgré ce sujet terrible, ça va. Dernièrement, je suis allée voir mes amis à Barcelone qui sont en train de faire des bébés avec une PMA qu'elles font donc juste en bas de chez elles, ce qui change.
Ouais.
Et l'une d'entre elles, donc celle qui ne porte pas les enfants, va avoir un congé parentalité, donc de 3 mois, puisque là-bas, c'est ça.
Trop bien, c'est légal.
C'est légal, et puis c'est donc les papas et les deuxièmes mamans peuvent avoir un vrai congé. Donc ça donne de l'espoir ou bon, du désespoir si on regarde notre situation à nous ici en France.
Patience, patience.
Et toi, Clémentine ?
Alors moi, je sais, j'en parle à chaque épisode, mais c'est bon, je suis enfin débarrassée, j'ai fini mon livre. Et du coup, là, je suis malade de somatiser, voilà, la fatigue, mais ça va aller.
Ouais, on sort le champagne quand même.
Voilà. Et alors, du côté des news féministes, l'actu a été très riche ces temps-ci. On ne peut pas être passé à côté, puisque la comédienne Adèle Haenel a dénoncé le harcèlement sexuel et les attouchements qu'elle avait subis de la part du cinéaste Christophe Ruggia, qu'il avait fait tourner dans le film Les Diables, lorsqu'elle avait entre 12 et 15 ans. Son interview sur le site de Mediapart était d'une puissance politique extraordinaire. On l'écoute.
Celles qui ont parlé avant, dans le cas des affaires MeToo, et qui m'ont fait changer de perspective sur ce que j'avais vécu. Et du coup, je voudrais contribuer à ça, renvoyer ça dans l'espace public, parce que je pense que ça peut vraiment libérer d'autres paroles.
L'affaire est désormais entre les mains de la justice qui s'en est saisie. Donc peut-être qu'elle fonctionne de temps en temps, on verra. Et de ton côté, qu'est-ce que tu as noté ?
Bien, du coup, c'est concomitant ou pas, hein, mais la photographe française Valentine Monnier a révélé le viol qu'elle avait subi quand elle était aussi très très jeune dans la geôle ou le chalet de Stadt de Roman Polanski. Elle avait tout juste 18 ans. Le truc qui est vraiment dingue, c'est que quand certaines personnes continuent à persister sur le fait qu'il faille bien séparer l'homme de l'œuvre, eh bien lui ne le fait pas, puisqu'il a choisi l'affaire Dreyfus pour son nouveau film. Et dans l'histoire, il se pense Dreyfus, ce qui est quand même assez ouf. Donc bon, pas sûr que la Cinémathèque française refasse une petite rétrospective Polanski dans les mois qui viennent, enfin on espère.
Il me semble que c'est la 6e personne à avoir été agressée qui était mineure à l'époque.
Ouais, il y a toute une liste de gamines, certaines de 9, 10, 15 ans au moment des faits, qui ont aussi déclaré qu'elles avaient été victimes de Roman Polanski.
Donc difficile de plaider le dérapage cette fois-ci.
J'avoue.
Alors pour revenir à notre thème de la semaine, l'année dernière, la marche contre les violences faites aux femmes qui a eu lieu dans plusieurs villes en France a été très impressionnante. Et cette année, le 23 novembre prochain, nous serons de nouveau des milliers, et sans doute encore plus pour marcher contre les meurtres de femmes, puisqu'en 2019, enfin, ils ne sont plus passés sous silence ou maltraités dans la rubrique des chiens écrasés, mais ils sont enfin comptabilisés méthodiquement.
En plus de cette marche-là, de nombreux collectifs, donc Stop Féminicide, Nous Toutes, ont dernièrement fait des happenings où se sont joints à des rassemblements. Par exemple, à Bastille, le 19 octobre dernier, il y avait un rassemblement de Nous Toutes et il y avait aussi un day-in des femmes qui avait été organisé, qui était assez saisissant. Donc 130 femmes à l'époque avaient décidé de porter le nom d'une victime dans cette opération-là. C'était vraiment très, très puissant.
Donc day-in, c'est comme quand on fait semblant d'être morte, voilà, à terre. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'historique du terme ? Parce que c'est vrai qu'il est apparu il y a peu de temps, en tout cas en France, mais ça fait longtemps qu'il existe ailleurs.
C'est vrai que le mot féminicide, là, on a l'impression qu'il est un peu partout, mais qu'il est apparu comme par enchantement, en fait, pas forcément. D'ailleurs, dans plusieurs pays d'Amérique latine, comme le Costa Rica, le Guatemala, l'Argentine, c'est un mot qui est intégré dans le droit. Ce terme donc est apparu au 19e siècle et est entré en France, en tout cas dans le Robert, en 2015. Et ça, à cause d'un meurtre particulièrement atroce qui s'est passé en 2011 en Argentine, celui de Ouria Moumni et de Cassandre Bouvier, donc deux jeunes filles qui étaient parties randonnées donc en Argentine et qui ont été assassinées parce qu'elles étaient des femmes, donc dans la forêt. Le père donc de Cassandre Bouvier avait porté justement devant les micros l'envie de démontrer que le féminicide est un crime contre l'humanité. On l'écoute.
Je l'ai ressenti comme un crime contre l'humanité dans les cumuls finalement, je dirais, d'agressions. Hein. Les traces nombreuses de coups, d'agressions, tout le corps, je dirais, est martyrisé.
Oui, alors il serait intéressant de voir justement toutes les définitions du féminicide considérées comme systémiques, parce qu'on tue les femmes parce qu'elles sont des femmes, on ne peut pas les laisser naître ou les laisser mourir parce qu'elles sont des femmes. On pense d'ailleurs à certaines régions, en particulier comme la zone frontalière mexicalo-états-unienne, où des milliers de femmes ont été assassinées. Mais il ne faut pas non plus oublier que le terme inclut aussi les avortements sélectifs, par exemple en Inde et en Chine. D'ailleurs, pour l'autrice féministe Diana E.H. Russell, qui est à l'origine de la définition du terme au début des années 90, les femmes décédées à l'issue de mutilations génitales ou bien lors d'avortements clandestins sont aussi victimes de fémicide, puisque la syllabe « ni », donc de féminicide, sera ajoutée ensuite. Et à certains égards, on pourrait même considérer que le manque d'études scientifiques sur certaines maladies débilitantes, par exemple comme l'endométriose, que certains scandales sanitaires comme le Mediator ou bien le vaccin du papillomavirus sont très problématiques puisque la douleur des femmes n'est pas considérée. Alors est-ce qu'on pourrait parler de féminicide dans ces cas-là ? Voilà, la question est posée.
J'ai envie de dire, à partir du moment où la douleur des femmes n'est pas considérée, leur mort systématique non plus, mais peut-être que c'est tiré par les cheveux. En tout cas, c'est peu connu, mais dans le droit français, le féminicide est une circonstance aggravante. Et il est pas reconnu en tant que crime à part entière, mais en tant que circonstance aggravante.
Bon à savoir.
Oui, depuis janvier 2017, donc c'est quand même très récent. Et la promulgation de la loi sur l'égalité et la citoyenneté, donc le code pénal reconnaît enfin spécifiquement les meurtres sexistes. Donc commettre un crime ou un délit sur une personne, que ce soit une femme ou un homme, le texte ne fait pas trop de distinction en raison de son sexe, entraîne donc une aggravation de peine, comme pour le racisme ou l'homophobie, par exemple.
Oui, le problème, c'est bien de prouver que le crime a eu lieu en raison du sexe. Et là, c'est là que ça se complique, souvent.
Exactement. Et aussi, le féminicide, et surtout là, on revient à cette 131e victime, en France, c'est aussi la conséquence d'une violence conçue dans le secret des maisons, donc la violence conjugale, qui concerne, faut-il s'évertuer à le rappeler, en écrasante majorité des femmes. Donc, petit rappel pour les personnes qui disent oui, mais il y a aussi des hommes battus. Mmh. Selon le ministère de l'Intérieur, sur un total de 149 victimes au sein de couples en 2018, 121 étaient des femmes. Et sur les 31 femmes auteurs d'homicides, 15 d'entre elles avaient été victimes de violences conjugales de la part de leur partenaire. On pense par exemple à Madame Sauvage, qui pourrait entrer dans ce genre de cas.
Oui, puis surtout, quand les hommes sont victimes, c'est aussi souvent que les auteurs, en même temps, sont aussi des hommes. Donc voilà, il faut bien rappeler qui sont les auteurs de violences.
C'est ça.
Et alors, dans l'actualité aujourd'hui, donc après des années où les meurtres de femmes ont été maltraités par la presse et passés sous silence avec des termes impropres comme drame familial, crime passionnel, le féminicide connaît enfin cette année un vrai traitement médiatique, puisqu'il y a eu donc d'abord l'apparition du terme et ensuite une vraie accélération du mot qui permet justement de voir par-delà la rubrique des faits divers. Mmh. D'ailleurs, le quotidien Le Monde a missionné pendant plusieurs mois toute une équipe sur la question des meurtres de femmes. Et la secrétaire d'État Marlène Schiappa a agi assez mollement, on y reviendra. Certains politiques se sont eux et elles aussi engagées, d'ailleurs même chez les Républicains,
eh oui.
Une fois n'est pas coutume, avec le député Aurélien Pradier qui a hurlé, donc non pas contre le féminicide, mais contre la violence domestique, je cite, « Compter jusqu'à la 117e morte, c'est nous rappeler l'absolue urgence qui est la nôtre. » On l'écoute.
« Je sais ce que ce décompte peut avoir de glaçant, mais il devait résonner ici, dans cette Assemblée, comme il résonne depuis trop longtemps dans notre pays, pour ne pas nous habituer. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, compter jusqu'à la 117e morte, c'est nous rappeler l'absolue urgence qui est la nôtre. 117. Ce chiffre d'or doit nous obséder.
Bon, il convient aussi de rappeler que le féminicide touche plus certaines femmes que d'autres. On pense par exemple aux femmes trans. On peut parler quasiment d'hécatombe dans certaines régions du globe, comme le Brésil ou les USA. Selon l'association Transgender Europe, dans le monde, une femme transracisée du continent américain aura une espérance de vie de 35 ans.
Oui, c'est très peu. Sans surprise, les travailleuses du sexe n'ont souvent pas droit à être considérées comme des victimes à part entière. D'ailleurs, par la société en général et très souvent par les médias qui donnent rarement leur nom, comme si ce n'étaient pas des vraies personnes. C'est le cas d'ailleurs depuis de nombreuses affaires de serial killers, depuis Jack l'Éventreur, le tueur de Long Island, le Ohio Prostitute Killer ou bien le Yorkshire Ripper, donc des tueurs dits de prostituées. Il y avait également le Green River Killer, donc qui a été coupable de 48 meurtres, qui s'expliquait ainsi. Je choisissais les prostituées comme victimes parce qu'elles étaient faciles à attraper sans que l'on le remarque. Je savais qu'on ne remarquerait pas qu'elles avaient disparu. Je choisissais des prostituées parce que je pensais que je pourrais en tuer autant que je voulais sans être attrapée.
On pense aussi aux femmes racisées qui sont à risque, hein. Déjà parce qu'on prend moins au sérieux leur souffrance, parce qu'au bout des téléphones, des personnes font du relativisme culturel, par exemple, ou sont racistes. On se souvient tous de la mort affreuse le 29 décembre 2017 de Naomi, qui n'avait que 22 ans et qui cherchait juste à se sauver en appelant le SAMU, et qui n'a pas été prise au sérieux. Enfin, sa douleur n'a pas été prise au sérieux. Également, la campagne, on y pense peu, mais être une victime à la campagne et à la ville, c'est pas la même chose. Il y a peu de présence d'associations dans certaines régions reculées en France. Les femmes souffrent plus d'isolement aussi. Selon des données du ministère de l'Intérieur, entre 45 et 55% des féminicides ont été commis dans la zone de compétence de Gendarmerie nationale. Ça, c'était entre 2011 et 2014. Ça veut dire dans des régions périurbaines ou des espaces ruraux.
Pour revenir donc à l'actualité, il y a eu récemment un Grenelle contre les violences conjugales lancé le 3 septembre. Et donc, pendant 2 mois, se sont tenues tout un tas de réunions plus ou moins utiles. Et cette cause-là a été faite cause nationale par le gouvernement. Donc, on attendait vraiment des mesures concrète, mais derrière, en fait, il n'y a pas grand-chose. Donc, à part envoyer la secrétaire d'État Marlène Schiappa au front sans argent, voilà, la décision qui a été prise, c'est celle d'octroyer 5 millions d'euros en plus à cette cause, alors qu'on sait très bien aujourd'hui qu'il faut au moins 500 millions d'euros pour commencer à résoudre le problème. Donc, on est vraiment loin du compte.
Et puis j'ai envie de dire, en plus de Marlène Schiappa, Madame Belloubet, qui remet en place Adèle Hanel en disant qu'elle ne devrait pas parler comme ça à la justice en France, c'est tout aussi mou, si on peut utiliser ce mot-là. Bref, donc quand même, 10 mesures ont été annoncées dans ce cadre-là, dont des hébergements, aussi la généralisation de référents violences conjugales dans les parquets, donc whatever that means, et l'annonce de la création au sein de tribunaux de chambres d'urgence permettant donc un traitement rapide des dossiers de violences conjugales, donc plus rapide que ce qu'il en est aujourd'hui, et un système de dépôt de plainte dès l'hôpital. Cela veut dire que les femmes doivent déjà aller à l'hôpital.
Oui, donc c'est aussi du travail en plus pour un hôpital public déjà sous pression, on le rappelle.
On est complètement d'accord. Donc, c'est une question de moyens, déjà, mais aussi de dispositifs. Là, on nous parle d'un dispositif de téléphone grave danger, mais ça ne marche pas. Les commissariats, déjà, ne sont pas du tout formés à recueillir des plaintes, que ce soit pour des agressions sexuelles ou autres. Il faut vraiment être pro pour comprendre ce que c'est que la violence conjugale, comment fonctionne, par exemple, une procédure d'éloignement. Et là, on ne peut pas parler de pro dans les commissariats de police aujourd'hui.
Oui, il faut aussi avoir beaucoup de temps à sa disposition pour pouvoir trouver un avocat, parfois le ou la payer, trouver un nouveau logement, etc. Mmh. Moi, j'ai eu l'occasion de passer un peu de temps dans une maison des femmes, je crois que j'en avais déjà parlé ici, dans le 9-3, donc dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Donc une maison des femmes, mais il y en a de plusieurs types en France. Moi, celle où j'ai été, c'était pas un lieu d'hébergement, mais c'était un lieu d'accueil féministe, politique, dans lequel une plateforme est mise en place pour aider les femmes à sortir de la violence. Et on voyait très bien que le commissariat refusait d'ailleurs de prendre des plaintes dans ce quartier-là, et que dans cette structure, il y avait en tout et pour tout 2 salariés et environ 800 femmes qui passaient la porte par an. Donc on voit que c'est absolument n'importe quoi. Quand on parle de cause nationale, il faut quand même se rendre compte qui sont les personnes qui s'occupent réellement du problème sur le terrain. Si c'est 2 personnes, voilà, c'est un peu désespérant. Et surtout, souvent, les personnes dans le milieu associatif sont souvent elles-mêmes d'anciennes victimes de violences qui doivent s'occuper de résoudre ce problème-là. Donc, tout ça est très, très paradoxal. On va écouter une femme interviewée sur France Inter qui explique qu'elle ne sait plus comment se protéger de son ancien conjoint.
Mon conjoint est copé d'un sursis mis à l'épreuve pour 2 ans. Et quand il est parti en métropole, j'ai rendu mon TGD, mon téléphone grave danger. Il y a 2 semaines, le juge d'application des peines m'informe de sa venue pour 3 mois sur l'île de La Réunion. Le jour même où il a perdu en appel, je suis donc extrêmement paniquée, interloquée. J'ai peur. J'ai averti l'association de victimes qui me suit. En 2 jours, j'ai eu un téléphone grave danger. J'ai écrit au juge d'application des peines pour lui expliquer mon désarroi et mon incompréhension. Je demande une interdiction de territoire puisque j'habite sur une île et que la distance me protège. Je n'ai aucune réponse depuis 3 semaines.
Et par ailleurs, le gouvernement a tendance en ce moment à fermer pas mal d'observatoires sur la pauvreté et sur d'autres questions. Et quand annonceront-ils la fermeture du centre Hubertine Auclert ou la fin de ses subventions? On verra. Donc le centre Hubertine Auclert, c'est le centre qui justement monitore la violence faite aux femmes et qui est donc capital dans ces cas-là. Donc pour reprendre, une femme a été égorgée sur son lieu de travail, une a été étranglée devant ses enfants, une femme a été jetée par la fenêtre, donc devant des témoins. Ces femmes-là aussi, je pense qu'il faut les écouter et voir les signaux avant-coureurs, et ça c'est tout le mystère aussi. Il y a quelques années, en Belgique, il y avait eu un spot qui avait été diffusé, je ne sais pas si tu l'avais vu, sur la violence psychologique dans le couple. On voyait donc une femme qui pourrait être notre amie changer de comportement parce que son homme la manipule, en gros. Et on voyait combien le rôle de l'entourage est capital dans ces cas-là. Donc je pense que collectivement, on doit être formé à détecter la violence et voir les changements dans les attitudes des personnes et prévenir le passage à l'acte parce que malheureusement, le scénario est quasiment toujours le même. C'est au moment où la femme veut quitter son partenaire, au moment où elle donne naissance, que la personne en face décide de passer à l'acte.
Oui, et alors pour reprendre les chiffres qu'on a eus cette année, donc à l'heure où on enregistre le podcast, c'est 131 femmes victimes de féminicide. En fait, je ne suis pas certaine que ces chiffres donnent exactement la mesure pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que 131 personnes, ce n'est pas grand-chose par rapport aux accidents de la route ou au cancer, si on veut vraiment relativiser. Évidemment, c'est 131 personnes de trop. Mais en fait, les milliers de femmes qui sont agressées, violées, etc., il faut vraiment comprendre que c'est un continuum de violence. Selon les chiffres, ça toucherait au moins 220 000 femmes par an. Mais en fait, selon certaines féministes, toutes les femmes sont victimes de violences depuis la naissance, depuis le moment où les parents s'occupent moins d'un enfant fille que d'un enfant garçon qui crie. Donc certes, les féminicides, ce n'est pas la norme, puisque 131 femmes, ce n'est pas toutes les femmes en France. Mais en fait, ça perdure parce que la norme culturelle, c'est la violence masculine. Et c'est ça qui permet en fait à ce contexte-là de prospérer. Donc, voir réellement ce qu'est le patriarcat, comprendre ce qu'est la domination masculine, le machisme structurel, la culture du viol, à quel point elle est banalisée, on ne peut pas comprendre les féminicides si on n'intègre pas ça à sa réflexion, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde autour de nous. D'ailleurs, Adèle Haenel l'a très bien rappelé, ça concerne nos pères, nos frères, nos amis, etc. Et d'ailleurs, si on connaît des femmes victimes de violences, ça veut dire qu'on connaît aussi des hommes auteurs de violences, des agresseurs et des violeurs. Et donc, c'est vrai que ça pose une question qui est encore très taboue en France, c'est celle de la violence masculine, qui n'est jamais posée, jamais pensée. D'ailleurs, quand on attrape ces hommes violents, les rares fois où on les attrape, on leur donne des stages obligatoires à faire, donc c'est un bon début, mais c'est sans doute pas suffisant. Et vraiment, le problème, c'est qu'il n'y a pas de prévention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de campagne adressée aux hommes. Les campagnes qu'on voit sur les violences faites aux femmes s'adressent aux femmes, et c'est très bien. Mais simplement, quand on fait ça, on arrive au bout de la chaîne. C'est-à-dire que c'est curatif, on s'occupe des foyers, des aides, mais ce n'est pas préventif. Donc on ne peut pas endiguer et prévenir le problème. Si le but, c'est que les violences conjugales et les violences contre les femmes cessent, on ne peut pas juste accueillir les femmes. Il faut prendre le problème à la racine. Il faut vraiment changer changer notre manière d'envisager le problème uniquement sous le prisme du care, donc du soin, y voir un problème structurel, sociétal, politique et pas simplement d'ordre privé. D'ailleurs, à ce sujet, rien n'a été annoncé au Grenelle non plus, par exemple, concernant la lutte contre les stéréotypes sexistes à l'école. Donc on voit bien à quel point toutes ces questions-là ne sont pas pensées ensemble comme elles devraient l'être.
Voilà, et quand le service public ne fait pas son travail, souvent c'est les féministes et les militants qui le font. L'important, c'est aussi de reconquérir l'espace public, comme tu disais, sortir du privé et afficher au grand jour la réalité de la violence masculine. Donc ces derniers mois, ces dernières semaines, vous avez sans doute vu, si vous habitez à Marseille, à Lyon, à Paris, à Rennes, à Angers, des collages féministes qui montrent la violence telle qu'elle est. À mes sœurs assassinées, par exemple, ou le nom d'une victime affichée comme ça dans la rue. Ces collages féministes, c'est Marguerite Stern, une ancienne fémène, qui a eu cette idée. Elle a commencé à Marseille avec ses grandes lettres noires sur fond blanc qu'on peut voir partout. Le collectif Nous Toutes a recouvert toutes les villes de France d'affiches aussi, a organisé des marches blanches chaque fois qu'il y a un assassinat, pour montrer quoi ? Que les victimes ne sont pas seules et qu'elles ont une cohorte derrière elles, qu'on peut en tuer une, elles sont mille derrière. C'est visible, c'est efficace et oui, ça peut embêter les gens de la voirie qui travaillent, des gens souvent précaires, ne l'oublions pas. Bref. Leur sang sur vos murs, plus écoutée morte que vivante, ces phrases-là sont importantes à mon sens, malgré donc la précarisation des travailleurs de la rue. Mais vous pouvez donc rejoindre les groupes sur Instagram dans les différentes villes dans lesquelles vous pouvez vivre et vous avez envie de faire ça. Certaines militantes ont tout de même été interpellées par la police. Donc un flic a dit à une militante qui a été arrêtée à Lyon « C'est de votre faute, vous nous faites perdre notre temps. Sans vous, on pourrait peut-être être en train d'intervenir auprès des femmes battues. » Soit, c'est un argument.
Ça a bon dos.
C'est un argument, mais bon, justement, ils n'interviennent pas auprès des femmes battues, donc bon, on a envie de dire. Après, bon, on connaît aussi le positionnement des fémènes sur certains sujets relativement tendus. On peut reparler de leur position face aux femmes voilées. Donc, une jeune fille se proclamant des fémènes est d'ailleurs intervenue lors de la grande manifestation contre l'islamophobie le 10 novembre dernier pour justement montrer son opposition au voile. On peut parler aussi de leur positionnement sur la prostitution. C'est une association abolitionniste. Donc on peut dire beaucoup de choses sur les fémènes aussi.
Et alors on va écouter le témoignage anonyme, parce qu'on ne veut pas les mettre dans la merde, de certaines personnes qui justement collent des affiches sur les féminicides. On les écoute.
Pendant que nous on colle, oui on a déjà eu des hommes qui viennent et qui nous embêtent, qui disent oui, des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Hein. Par exemple, oui, vous trimballez les seins à l'air, bah moi je vais me trimballer la bite à l'air, des trucs comme ça, des trucs qui n'ont rien à voir. Donc en général on colle et on s'en va vite. Après d'autres réactions, parfois on a déjà eu des personnes qui nous regardent de leur balcon, qui nous disent merci. Même derrière, qui reste derrière nous. Et puis ça m'est pensé une fois où j'allais en cours et il y a une phrase qui est juste à côté et c'est « Nous sommes toutes des héroïnes » et il y avait un petit garçon de 5 ans qui a demandé à sa maman pourquoi est-ce que c'était toutes des héroïnes et tout. Donc je trouve ça cool parce que ça aide aussi les petits garçons, juste les enfants à poser des questions quand même par rapport aux féministes. Aux féministes et aux féminicides aussi, du coup.
Voilà. Et entre-temps, donc, le mouvement des colleuses a émergé. Et donc, on s'est joint à ça parce que c'est une façon facile, spectaculaire et qui, mine de rien, engage le dialogue. Ça engage énormément le dialogue. Avoir été témoin de violences au sein du couple ou dans la rue, on l'a tous vu. On n'a peut-être pas tous subi, mais on l'a tous vu. Moi, dans ma génération, je me rappelle... Moi, j'ai 43 ans, donc je me rappelle d'amis de mes parents qui se faisaient tabasser par son mec. Et à l'époque, c'était pas... Il n'y avait pas la même visibilité, on n'avait pas la même opinion sur la chose. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est encore dans un esprit un petit peu à l'ancienne, où encore, c'est normal que l'homme ait la première place dans la société, et que dès qu'on commence à dire, nous aussi, quoi, on partage cet espace, on est à 50-50, quoi, ici, quoi. Donc, il est hors de question que ce soit toujours eux, leur parole à eux, qui soit la première. Il n'y a pas que les hommes, c'est toute la société qui est violente, en fait. On vit dans une société qui est violente et qui met les femmes dans une position de victime de laquelle elles ne peuvent parfois pas sortir. Parce que, on voit avec le Grenelle des violences faites aux femmes qu'il y a des budgets qui doivent être mis en place pour pas que pour éduquer les petits garçons, pas que pour apprendre à la police d'accueillir les femmes, pas que pour mettre en place des bracelets électroniques, parce qu'il faut aussi pouvoir les surveiller, ces mecs à qui on va mettre des bracelets. Il faut donner la possibilité à des femmes, même si elles gagnent le SMIC, de pouvoir quitter leur mari, parce que ben voilà, là c'est tout ça, c'est des boulets qui sont mis au pied des femmes. C'est là qu'ils sont les boulets.
Et alors, du côté de notre expérience, en tout cas de journaliste, à couvrir peut-être ou pas ces questions-là, toi, tu en es où, Anne-Laure ?
Bah moi, déjà, dans mon métier, l'intérêt, c'est aussi de proposer des articles que les rédactions ont tendance à ne pas prendre. Hein. Soyons honnêtes, ça fait que très peu de temps que les rédactions trouvent intéressant de parler du viol, des violences systématiques faites aux femmes. Donc, de proposer ces sujets et surtout de passer des heures avec les personnes victimes pour qu'elles nous racontent ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles ont peur de vivre un jour. Donc ça, c'est une expérience de journaliste, mais aussi de militante féministe et que tout le monde peut s'approprier. Il suffit juste de reconnaître les signes, comme on disait tout à l'heure. Une amie très chère que vous connaissez peut très bien être victime de violence sans que vous le sachiez. Il faut juste tendre la main. Et toi, Clémentine, du coup, à travers Prenons la Une, peut-être ?
Oui, donc moi je fais partie d'une association de femmes journalistes qui s'appelle Prenons la Une, et en fait ça fait déjà un certain temps qu'on a émis une liste de recommandations dirigées, justement écrites pour la presse, sur comment mieux écrire sur ces violences faites aux femmes, bien parler des victimes, soit en les nommant quand c'est nécessaire, soit en ne les nommant pas si ça les met en danger, rappeler des choses très évidentes comme ne pas titrer sur des blagues. Par exemple, ivre, il se trompe de chambre et donc de femme. En fait, il s'agit d'une agression sexuelle, voilà, les mots sont importants. Donc, encore une fois, ne pas utiliser des termes impropres comme drame conjugal ou crime passionnel, ce sont des catégories qui ne sont pas reconnues par la loi, donc qui n'existent pas. Et certains journaux nous ont suivis, donc c'est super. Et certains rappellent à chaque fois le numéro de téléphone qui est le 3919 à composer. Et c'est vrai que nous, on s'était posé la question, il y a quelques années, d'intégrer le terme féminicide dans nos recommandations. Et à l'époque, on s'était dit que les médias français n'étaient pas prêts, en fait. Et en fait, ça nous a complètement pris au dépourvu cette année. Ça nous a complètement rattrapés, ce qui est plutôt chouette. Et c'est aussi un sujet dont, moi, à titre personnel, je parle pas mal avec une consoeur dans le collectif des Journalopes. C'est Lorraine Descartes, qui, elle, a beaucoup travaillé sur les féminicides, notamment pour Mediapart et pour l'Obs. Voilà, on écoute parler de pourquoi les femmes ne partent pas.
C'est tout simplement parce que c'est la personne avec laquelle on vit, c'est la personne qui nous connaît, qui connaît aussi nos points faibles, c'est parfois la personne avec laquelle aussi on a créé une famille.
Et alors, est-ce qu'on a des ressources ou des conseils à recommander ?
Bah déjà, on peut vous dire de réécouter, l'écouter si vous l'avez pas encore fait, l'interview d'Adèle Haenel sur Mediapart, qui montre que les témoins doivent vraiment prendre leurs responsabilités et dès qu'ils sentent que quelque chose est étrange, aller au bout de cette conviction et passer à l'acte, c'est-à-dire aller vers la victime et condamner son agresseur.
Il y a aussi le compteur sur Facebook, donc c'est la page Féminicide par compagnon ou ex qui est très utile, à laquelle on peut se référer. Alors dans la pop culture, on n'est pas surprise puisque de manière générale, la violence faite aux femmes est soit érotisée, soit présentée comme romantique.
Oui, par exemple, dans la musique folk, il y a un motif particulier qui s'appelle les Murder Ballads.
Trop mignon.
Ouais. Sympa, les petites chansons de la mort. Donc de Pete Seeger à Bob Dylan, ils s'en sont tous passés par là. Hein. C'est souvent un mec fou de jalousie qui bute sa femme parce qu'elle avait bien mérité et qui s'en mord les doigts puisqu'il se retrouve pendu, le pauvre garçon. Alors il y a une chanteuse que j'adore qui s'appelle Aline Daly Segarra, qui a un groupe qui s'appelle Hooray for the Riff Raff. Et elle avait justement utilisé ce motif-là, elle l'avait complètement retourné. Elle avait fait une chanson qui s'appelait Body Electric, où elle parle justement à la place de la victime, elle est un cadavre dans un fossé. Et elle parle en fait à son assassin. Donc on l'écoute un petit peu.
Said you're gonna shoot me down, put my body in the river. Shoot me down, put my body in the river while the whole world sings.
Et alors au cinéma, c'est aussi un motif régulier dans les films d'horreur, puisque les tueurs sont presque toujours des hommes et les personnes tuées presque toujours des femmes, ce qui est effectivement basé sur la réalité, puisque les tueurs en série tuent les femmes et les filles en les targetant comme telles. Donc il y a Le silence des agneaux, il y a également Millennium qui parle de crimes misogynes. Et sur la question des violences, il y a également un film qui était sorti il y a quelques années, c'est Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Moi, je ne l'ai pas vu, je pense.
Ah, je l'ai vu, il est extraordinaire ce film. Vraiment, là, pour le coup, il faudrait qu'il soit montré dans les lycées, je pense. Parce qu'on voit la violence telle qu'elle est, et aussi du point de vue de l'enfance, qui est assez chouette.
Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6e A1 au collège Théodore Monod de Saint-Dumont, et il a dit... Mes parents sont séparés depuis un an, je vis maintenant ici avec maman et ma sœur.
Justement sur ce thème-là, il y a une bande dessinée qui est sortie très récemment. C'est Une place au paradis de Thomas Mosdi et Pierre Lorenzi aux éditions Marabule, qui montre un couple tout à fait banal avec une petite fille. Et on va voir peu à peu l'emprise psychologique du père qui va se mettre à frapper la mère et qui promet à chaque fois de ne pas recommencer. Et voilà, quelle forme va prendre cet engrenage-là.
Passionnant. Il y a aussi des super podcasts qui reviennent sur des faits divers ou des cold cases qui concernent la plupart du temps des meurtres de femmes. L'un est super, que je l'ai écouté récemment, s'appelle Someone Knows Something. C'est diffusé par la chaîne canadienne CBC. Ça revient sur le meurtre d'une jeune fille de 15 ans dans une minuscule ville, loin de tout. Une ville abrutie de racisme envers la minorité Crow. Et bon, pour changer un peu de sujet peut-être, est-ce que tu n'aurais pas un bon petit livre bien calme et agréable à lire ?
Oui, surtout si vous faites déjà vos courses de Noël, on ne sait jamais. Alors moi, j'ai lu récemment dans mon club de lecture, et oui, Bleuet de Maggie Nelson. Donc Maggie Nelson, autrice américaine, qui avait très bien mêlé la théorie et l'autofiction dans son livre Les Argonautes, que je vous recommande. Là, c'est son livre précédent qui est enfin publié, Bleuet, et qui parle de son obsession pour la couleur bleue. Donc ça peut être un peu rebutant. Et en fait, elle s'en sert pour parler à la fois de sa dépression et de la perte de l'être aimé. C'est des toutes petites pensées, très brèves, c'est magnifique. Et c'est aux éditions du Sous-Sol, avec une traduction de Céline Leroy. Et toi, tu l'as lu, non ?
Ouais, j'ai lu, j'ai adoré, j'ai trouvé ça d'une poésie sans nom.
Voilà, donc à offrir.
Ouais, vraiment à offrir. Et comme on en est rendu à la douceur, je voudrais aussi recommander le merveilleux roman de Anne Pauly, Avant que j'oublie, qui est publié chez Verdier. Donc l'autrice nous convie dans sa tête au moment où elle perd son papa, et où donc se brasse énormément de choses, donc l'envie de venger un peu sa mère, l'envie de saluer son père comme il se doit, l'envie de se réconcilier avec son passé et aussi d'adouber son présent. L'envie et le besoin de faire des cartons qui ne sont pas les siens, c'est très très beau. Bon, moi j'ai un problème avec le fait d'imaginer la mort de mes parents, donc ça m'a totalement bouleversée. Et surtout, c'est d'une beauté et d'une drôlerie infinie.
Super, bah, je note aussi dans ma liste.
Du coup, Charlène nous a posé une question qui est assez, assez chouette. Comment faire quand un de ses collègues est fasciné par Jordan Peterson, à part se révolter ? Alors, qui est ce Jordan Peterson ?
Oui, alors effectivement, c'est tellement fréquent et pénible d'avoir des collègues toxiques et pas très woke. Je trouve que ça rajoute vraiment de la pénibilité au travail. Mais c'est très bien d'avoir posé cette question, puisque tout le monde en France ne connaît pas ce sympathique trublion. Donc, en gros, Jordan Peterson, c'est un peu le Éric Zemmour canadien. Donc, c'est un psychologue qui défend la masculinité en crise, bouhou, et qui s'insurge contre le politiquement correct. Donc, par exemple, il se moque des personnes qui choisissent leur pronom, quoi. Il faut quand même avoir que ça à faire. Et en fait, il est connu depuis quelques années dans les pays anglo-saxons. C'est un peu l'avocat des incels, donc les célibataires involontaires. Il a écrit un livre qui est un best-seller. Et d'ailleurs, il s'est un peu embrouillé avec Martin Veil dans Quotidien. On écoute.
I thought we were talking about masculinity.
We are.
No, we're not.
Yes, we are.
How are we talking about masculinity?
Because I'm asking you what you think of men and of women. Isn't
no,
that...
basically what you've been trying to do, I would say, for the last 15 minutes is put me into a sequence of corners by accusing me of various forms of misbehavior.
Et pour répondre plus précisément donc à propos de ton collègue, tu peux te moquer de lui, par exemple, dire « bah ouais, on peut plus rien dire, d'ailleurs on peut plus utiliser certains mots pour parler des personnes noires ou de confession juive ou musulmane, dommage ». Tu peux aussi le tourner en dérision ou le prendre de haut. « Ouin ouin, male tears ». Les pauvres, donc les garçons dont parle Jordan Peterson, ils pensent qu'ils ont tous droit à leur bonasse, mais c'est trop dur parce que, bah, en fait, ils sont tout seuls. Désolé. Tu peux aussi rallier d'autres alliés à ta cause. Je suis sûre qu'il y a d'autres gens qui sont exaspérés par ce type. Peut-être que tu te sentiras moins seul. Et si vraiment ça dépasse les bornes, il ne faut pas hésiter à en parler aux ressources humaines, si ça devient, si c'est sexiste, si ça devient du harcèlement. Sinon, moi, je conseillerais juste d'ignorer. D'ailleurs, à l'époque où je travaillais dans un open space, il y avait un casque de chantier. Et donc, je le mettais sur mes oreilles. Ça me coupait le son direct. Ça coupait le sifflet aux gens que je ne voulais pas écouter. Et toi, t'as un conseil, Anne-Laure ?
Bah moi, j'aurais tendance à dire la même chose que toi. Surtout, ne lui donne pas une minute de ton temps qui est tellement précieux. Si on doit faire l'éducation des pauvres types, en plus de tout ce qu'on a à faire, bah c'est chaud. Notre patriarcat va prendre du temps à se construire. Mais bon, donne-nous son petit nom à ce garçon. Quand il sera construit notre patriarcat, on va le kidnapper. On lui fera voir, façon Orange Mécanique, des vidéos de discours de grandes femmes antiracistes et misandres. Il se coupera lui-même le sgeg. Oh, ça va, on rigole.
On peut plus rien dire. Bon, en tout cas, on espère qu'on a fait le tour de la question et que de votre côté, vous irez manifester le 23 novembre. Vous pourrez retrouver tous les liens mentionnés dans la description de l'épisode. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux @quadmeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court. Salut Anne-Laure.
Salut Clémentine.
Quadmeuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté par Anne-Laure Pinault,
monté et mixé par Laurie Galligani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, prise de son Grégoire Amouma au studio Belleville et coordination Ashley Tola.